Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Eh oui, Gérald, c'est moi. Toujours présent à côté de ma petite Lolo, comme tous les mercredis.
Et bonsoir.
Pour la 1 milliardième émission, dont c'est pas, on compte jamais, on sait pas quel numéro on est. On a dit qu'on compterait, mais puis on a laissé tomber.
Ça va venir de la nouvelle intro de l'émission, non ?
Oui, c'est vrai, à chaque fois, je le dis. En tout cas, on est le 8 avril 2015, après Jésus-Christ. Et nous avons aujourd'hui, nous recevons... Mais avant de parler de l'invité, je voudrais saluer Bernardo, quand même.
Bonsoir Gérald, bonsoir Laurence, bonsoir notre invité. Et bonsoir à toutes et à tous.
Alors, donc, notre invité d'aujourd'hui s'appelle Guillaume Tania, est-ce que je me trompe ? Ça commence bien, Guillaume, oui. Tania, c'est
bonsoir.
Ça, je ne me trompe pas.
Bonsoir
Guillaume.
Absolument pas.
Alors, ce qui est amusant, ma petite Lolo, c'est que nous avons un mec pour nous parler d'égalité.
Eh oui, mais au départ, il devait avoir un homme et une femme. Et la femme s'est blessée au genou.
Donc elle n'a pas pu venir.
Et donc je serai tout seul à vous parler d'égalité femmes-hommes.
Oui, parce que finalement, l'égalité femmes-hommes, on entend toujours... que c'est la femme qui est défavorisée par rapport à l'homme, on dira.
Oui, mais c'est vrai.
C'est vrai. Ce qu'il en pense, Guillaume, c'est ça.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec la femme qui est présente.
On n'est pas masculiniste, alors on est bien féministe, ce soir.
Non, surtout pas masculiniste, ce sont des ânes et ce sont des imbéciles.
D'accord.
Ils disent des bêtises énormes.
C'est vrai.
Bien sûr.
Ouais. Même ceux qui montent au sommet des grues pour
surtout ceux qui montent au sommet des grues.
D'accord.
Souvenez-vous d'ailleurs, celui qui a organisé cette opération très médiatique,
ouais.
Il s'est avéré avoir eu des problèmes avec sa femme et ses enfants pour des histoires de violence conjugale.
D'accord.
Donc,
j'avais pas su ça.
Ouais. Oui, c'est un mouvement très organisé au Canada, par exemple, et c'est un mouvement... on pourrait qualifier d'extrême droite. Ce ne sont pas des gens très nets. Oui, tout à fait.
Conservateurs.
Oui.
Et réactionnaires. Donc, on est d'accord, lorsqu'on parle d'égalité... Alors, est-ce qu'on dit égalité des sexes ou des genres, maintenant ?
On dit ce qu'on veut. L'essentiel, c'est de combattre pour arriver à l'égalité.
Voilà. On sait que la balance, elle est en défaveur, quand même, de la partie du genre féminin.
Ben, bien sûr. Vous avez vu les dernières élections départementales.
Ouais.
Où il y avait
des couples, obligatoirement.
Exactement. Résultat, il y a 10% de femmes présidentes de département, c'est-à-dire un nombre invraisemblable. Et donc, ça, c'est la preuve la plus flagrante qu'il y a en effet un énorme problème en France et ailleurs d'égalité entre les femmes et les hommes.
Moi, ce qui me choque le plus, je dirais, à titre personnel, c'est qu'en 2015, après des années et des années et des années de lutte pour les droits des femmes, une femme est encore moins payée qu'un homme, moins bien payée qu'un homme à salaire égal. Ça, c'est une discrimination
plus de 20%
intolérable.
En moyenne, tout à fait.
Voilà.
Mais toutes les discriminations sont intolérables. Toutes les inégalités sont intolérables. Pourquoi une femme serait en effet moins payée qu'un homme ? Pourquoi une femme n'aurait pas la possibilité d'être présidente de la République ? Pourquoi une femme... pourquoi dès qu'on monte dans... la hiérarchie politique, économique, peut-être dans les radios associatives aussi. Plus on monte, moins il y a de femmes.
Absolument. Moi, je suis beaucoup mieux payé que Laurence, il faut déjà savoir.
25% de plus.
Et ensuite, elle a un droit de parole limité parce que c'est une fille.
Exactement.
Voilà. Donc, justement...
Il y a aussi des problèmes d'inégalité chez les homosexuels, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle...
Pluriel Gay.
Voilà. Et il y a aussi, pas mal de machisme chez les homosexuels mâles.
Ah ouais. Mais en fait, Gérald est un peu macho.
Oui, c'est vrai. Je revendique.
Mais il assume.
Qu'est-ce que ça veut dire être macho ?
Non, c'est surtout une occasion de plaisanter avec Laurence, essentiellement.
Oui. Ah.
Et puis, j'aime pas le foot féminin. Voilà. j'aime le foot.
Tu fais être macho ?
Voilà. Oui, j'aime pas le foot féminin. C'est pas bien de dire ça, parce que les femmes ont le droit de faire du foot. En fait, je ne conteste pas aux femmes le droit de faire du foot, évidemment, mais je n'aime pas le foot féminin.
Mais ça te plaît pas ? Oui, tu vas pas interdire les femmes de faire du foot.
Je préfère regarder jouer des hommes que des femmes.
Non,
je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas pourquoi.
Non, il n'est pas macho du tout.
Voilà, donc...
Il a une très jolie chemise à pois, je tiens à le préciser, pour les auditeurs, parce qu'il ne te voit pas.
Oui, c'est vrai, on est à la radio. Il y a plein de questions à poser à notre invité, ça je le sais. Moi, la seule chose que je voulais, juste pour lancer un petit peu l'émission aussi, c'est... on vous présente Guillaume Tania et votre partenaire, Éléonore Dumas, comme des développeurs de la plateforme Égalité. Alors, on va... vous posez la question, évidemment, ce que c'est l'égalité. Je voulais préciser qu'égalité, vous avez décidé aussi de faire une entorse à la grammaire et à l'orthographe, puisque vous l'écrivez « et » S, c'est le E étant mis en évidence. Mais alors pourquoi un E? Parce que finalement, l'égalité, c'est féminin déjà.
Tout à fait, justement, puisque c'est féminin, ajoutons un E. Et ajoutons un S. Ainsi, on proclame que c'est très féminin et on proclame que c'est très divers.
Que c'est pluriel, comme
absolument.
Alors, qu'est-ce que c'est, cette plateforme, justement, la plateforme égalité?
Eh bien, c'est un pari qui est de mettre plein d'égalité dans toute la société grâce au numérique. Le numérique, c'est une révolution extraordinaire et on s'en est emparé, à notre faible mesure, pour lancer plein de contenus. Et cette galaxie numérique, c'est en fait une agrégation de plein de contenus. Donc c'est une plateforme au départ, avec une encyclopédie numérique, c'est une première mondiale, ça n'existe nulle part ailleurs, consacrée à l'égalité femmes-hommes pour le moment. Mais il faut savoir aussi qu'égalité, d'où le E, mais aussi le S, va s'intéresser au fur et à mesure à toutes les inégalités, à toutes les discriminations et à tous les combats, qu'ils portent sur le handicap, qu'ils portent sur le genre, qu'ils portent sur... l'origine sociale, qui est une des grandes inégalités. Mais pour l'instant, nous nous focalisons sur l'égalité femmes-hommes. Donc, une encyclopédie numérique, avec cette idée que ce n'est ni Wikipédia, puisque ce n'est pas ouvert à tout un chacun qui pourrait écrire dans cette encyclopédie. C'est plus des experts, historiennes, journalistes même, qui écrivent dedans. Avec cette idée... et c'est pour ça qu'elle est originale aussi, qu'elle est conçue originellement numérique. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement des écrits, c'est des écrits, de l'audiovisuel, ce sont des infographies animées, ce seront par exemple des comédiens ou des comédiennes qui liront des textes de grandes femmes féministes, etc. etc. Et des archives, des liens. Et l'idée, évidemment, c'est qu'au fur et à mesure, il y ait un maxima de l'information par tous les moyens que le numérique permet. Donc ça, c'est le premier site, cette encyclopédie numérique. Le deuxième site, c'est la Panthéon. La Panthéon, c'est un site complètement participatif, à l'inverse de l'encyclopédie numérique, avec cette idée au départ que... on en avait un peu assez d'entendre certaines féministes geindre sur le fait qu'il n'y avait pas assez de femmes au Panthéon. Et pour qu'il y ait plus de femmes, eh bien, il faut qu'un homme, le président de la République, décrète qu'il y aura des nouvelles femmes. C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, Hollande. Il y en aura deux nouvelles qui arriveront. Mais avec ces deux nouvelles, on n'aura quand même que quatre femmes sur, donc, je crois, 64, avec 74 hommes. Donc on restera dans une inégalité assez incroyable. Eh bien, nous avons décidé plutôt que de geindre sur le fait qu'il n'y avait pas assez de femmes au Panthéon. Puis, après tout, on s'en fout un peu du Panthéon. C'est un vieux monument tout moisi qui intéresse que les gens qui sont...
C'est joli, le Panthéon.
Oui, très beau. Ça fait effet, une œuvre de soufflot. Mais je veux dire que l'entrée au Panthéon, c'est un peu comme la Légion d'honneur, la médaille du mérite et je ne sais quoi. C'est quand même des choses un peu vieillottes, un peu superfétatoires. Donc, notre idée, ça a été de créer un Panthéon numérique et complètement participatif. Et donc, ça veut dire que tous les auditeurs qui le désirent peuvent faire entrer dans cette Panthéon, puisque là aussi on l'a féminisé, .fr, faire entrer dans cette Panthéon des femmes remarquables, exceptionnelles, mortes ou vivantes, c'est aussi la différence avec le Panthéon, nous on veut honorer aussi les femmes vivantes, célèbres ou anonymes, parce que là aussi, et vous en avez sûrement reçu sur cette radio, il y a plein de femmes qui agissent dans les milieux associatifs ou dans d'autres domaines et qui ne sont pas aussi connues que Jane Birkin ou Aung San Suu Kyi ou je ne sais qui, et qui méritent toutefois d'être célébrées, en tout cas d'être honorées, valorisées. Donc ça veut dire que alors évidemment pas forcément votre grand-mère parce qu'elle a été une bonne grand-mère, mais
pourquoi pas
mais dès que, en effet, vous avez envie de mettre en valeur une femme qui a agi, célèbre, morte, vivante ou anonyme, eh bien, vous pouvez aller sur tout simplement le site lapanthéon.fr et écrire quelque chose, poster des photos, des liens, etc., etc. Ça, ce sont les deux sites qui existent pour l'instant. Il y a évidemment autour de cela multitude de réseaux sociaux. Et puis, nous allons ouvrir prochainement un site d'actu consacré là aussi à l'actu des combats des femmes, des initiatives des femmes. Parce que c'est très important aussi de montrer que l'égalité, c'est justement des choses qui ne se montrent pas assez. Toutes ces femmes qui créent des entreprises, toutes ces femmes qui sont en effet en train de bouger des choses dans le monde économique parce qu'elles sont directrices, elles sont PDGères et elles gèrent différemment leurs entreprises. Aussi les associatifs dont on parlait, aussi les artistes, évidemment.
Mais la question que je me pose, moi, justement, c'est, bon, on comprend les motivations de la création de votre plateforme, mais qu'est-ce que vous espérez avec cette plateforme ? Qu'est-ce qui est plus important ?
Parce que du coup,
c'est de faire avancer l'égalité homme-femme ou faire prendre conscience des inégalités ?
Les deux, mon capitaine.
Voilà. Et ça commence par la prise de conscience, c'est une première chose.
Bien sûr, évidemment. Mmh. Il s'agit, d'où par exemple le site d'actu, il s'agit d'informer, il s'agit de montrer les choses, montrer ce que ne montrent pas les médias de masse. Quand vous regardez les grands journaux BFM, France 2, TF1, on parle plus souvent de ce qui ne fonctionne pas, on parle plus souvent des gens qui se plaignent de la hausse de l'essence que de toutes les initiatives. Cette radio, c'en est un exemple, de toutes ces initiatives qui fleurissent par milliers et par milliers en France et dans toute l'Europe et dans le monde entier, où des gens agissent pour le progrès social, agissent pour faire un peu bouger le monde, ou agissent pour faire bouger leur quartier ou leur ville, etc. Et en effet, le rôle de médias comme le vôtre et le rôle de ce que nous voulons faire, c'est justement de montrer tout cela. Et de montrer justement que dans le domaine des femmes, des droits des femmes, il se passe énormément de choses.
D'accord. Alors, Laurence, tu avais voulu poser une question donc, sur la plateforme. En fait, tu avais plein de questions, je pense.
Oui. Mais donc, en fait, du coup, moi, je me suis dit, donc, vous avez encore l'impression, donc, en 2015, que les inégalités, même si on sait qu'il y a des écarts de salaire toujours entre les hommes et les femmes, donc vous aviez l'impression que c'était encore passé sous silence, qu'il y avait des inégalités qui persistaient. Et dont on ne parle jamais. Donc c'est ce que vous.
L'avantage de 2015, c'est justement, ça n'est plus passé sous silence. Mmh. Et les femmes se sont révoltées il y a fort longtemps. Certainement, Ève s'est révoltée contre Adam et contre tous les machos qui étaient dans le jardin. Mais l'avantage de 2015, c'est que maintenant, en effet, il y a plus de visibilité. Pas encore assez sur nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a plus de visibilité sur la contestation. Les associations féministes politiques, dirons-nous, ont été très fortes. Les fémènes, par exemple, dans l'aspect le plus radical de ce féminisme politique, ont en effet dit très haut, très fort les choses, comme ce fut le cas, d'ailleurs, quand les suffragettes au XIXe siècle manifestaient pour obtenir le droit de vote, de façon assez violente, quelquefois, et comme ce fut le cas, évidemment, avec le MLF dans les années 70, pour, par exemple, obtenir le droit de vote. Et donc, on est, en effet, dans quelque chose où, maintenant, les grands médias parlent de toutes ces inégalités. On l'a vu sur les départementales, il y a eu beaucoup d'éditos sur cette aberration dont je parlais tout à l'heure, le peu de femmes élues présidentes, in fine. Mais l'idée, c'est que tout cela, en effet, est dit. Mais maintenant, il faut aussi, comme l'a fait la ministre qui était en charge des droits des femmes à un moment donné, Najat Vallaud-Belkacem, il faut aussi que tout cela soit effectif. C'est-à-dire, comment on arrive... Alors, c'est la loi qu'elle a fait voter, la loi du 4 août, qui sont des choses très, très pratiques pour faire avancer le droit des femmes dans les entreprises, dans la politique, etc. Mais c'est aussi le rôle d'associations comme la nôtre ou d'associations de femmes d'influence dans l'économie. Il y en a plusieurs à Lyon. Et toutes ces associations, elles vont maintenant faire quelque chose qui devient très intéressant. C'est au quotidien faire bouger des choses. J'ai vu comme information, c'était une PDGère d'une grosse société, pardon, j'en oublie le nom, qui a décidé que les négociations salariales, ça allait se passer autrement maintenant, puisque on sait, il y a des études qui le montrent, que quand un homme est en entretien d'embauche, il parle tout de suite de son salaire et tout de suite ce qu'il veut. Et une femme a immédiatement des réticences à le faire. Et donc, elle a décidé de changer les choses. Par exemple, quand des femmes sont cadres supérieurs ou même dirigeantes de société, elles refusent qu'il y ait ces réunions qui commencent à 19h, qui se poursuivent, parce qu'elles doivent aussi s'occuper de leurs enfants. Non seulement elles, leur mari aussi, mais justement, ce qui se passe dans ces entreprises où les femmes décident de modifier ces réunions infernales, c'est que les hommes sont très contents aussi de rentrer chez eux et d'être plus efficaces lors des réunions, de ne plus faire obligatoirement des réunions de 3 heures. Donc on réduit le la durée des réunions, et puis on retourne chez soi, puis on s'occupe des enfants, puis peut-être même des tâches ménagères. Donc ça fait bouger au très concret l'égalité, par exemple.
Et est-ce que pour vous, et donc pour est-ce que la plateforme égalité aussi, c'était important de parler aussi aux nouvelles générations, aux
Absolument.
Plus jeunes, de ce qu'a été le féminisme, les combats qui ont été menés, et du coup de tester un peu, voir où en étaient les jeunes générations là-dessus, comment les jeunes hommes de maintenant se positionnent par rapport aux jeunes femmes et vice-versa.
Tout à fait. C'est même le cœur de cible de notre projet, les jeunes générations. Et donc, ce sera le quatrième site que nous ouvrirons, qui va être plus un hub qu'un site. C'est-à-dire que ça va être... On s'en fout que les jeunes viennent sur ce site. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent piquer ce qu'on va produire et qu'ils le viralisent sur les réseaux sociaux, qu'ils le mettent sur tous leurs réseaux sociaux, leurs blogs, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes ? On va faire des choses très simples. Évidemment, il est hors de question d'aller voir les jeunes générations en leur disant « c'est pas bien de pas aimer les homosexuels, c'est pas bien de pas aimer les femmes, tout ça ne sert à rien ». En revanche, il y a une chose qu'adorent faire les jeunes, c'est être dans le trash, être dans le drôle, être dans l'ironie, et on va faire avec eux cela. C'est-à-dire qu'on va constituer des équipes artistiques, réalisateurs, scénaristes, développeurs multimédia, et puis on va proposer à des bandes de jeunes, lycéens, lycéennes, de jeunes de centres sociaux, de jeunes de quartier, de jeunes y compris de jeunes délinquants suivis par des éducateurs, etc. On va leur proposer de produire, de faire des productions audiovisuelles sur les questions d'égalité, sous la forme qu'ils voudront. Mais il faut que ce soit professionnel, il faut que ce soit artistiquement convaincant, il faut que ce soit aussi pédagogiquement convaincant. Ça peut être même avec des ce qu'on appelle des films pocket, avec les téléphones mobiles. Mais l'idée, c'est que ce soit créatif et que ça parle d'égalité. Et ça peut être, en effet, un film sur un viol la façon la plus trash possible. Ça peut être un truc très, très rigolo à l'inverse. Toutes les formes seront possibles. L'idée, c'est de produire des programmes courts. Ces programmes courts, on les proposera aux télévisions. Un de nos partenaires, c'est France Télévisions. On verra ce qui se passera avec le nouveau PDG. Et l'idée, c'est de produire des programmes courts qui seraient diffusés sur les télévisions, sur nos sites, sur tous les sites qui voudront les utiliser, sur les sites institutionnels qui voudront les utiliser, même le ministère de la Jeunesse et Sport, de l'Éducation nationale, etc., du droit des femmes, évidemment, et évidemment, surtout sur les réseaux sociaux. Et notre idée, c'est en effet de faire du buzz, c'est qu'il se passe des choses, comme on en voit souvent sur Internet, d'ailleurs sur toutes les questions, et entre autres les questions du féminisme, il y a des buzz assez formidables, assez drôles, qui en effet font beaucoup parler, font beaucoup bouger les lignes. Et là aussi, toujours, ce n'est pas des lignes qui bougent comme une révolution, où il y a un tremblement de terre, ce sont des petites fractures, mais ces petites fractures font avancer de toute façon au quotidien la question de l'égalité.
Du coup, vous allez travailler, ils sont quand même chaperonnés par des spécialistes, des professionnels,
tout à fait.
Des scénaristes éventuellement,
tout
des
à
réalisateurs.
Fait. Tout à fait, tout à
D'accord.
fait. Tout à fait. Il y aura différentes formes. L'idée, c'est que, en effet, la plupart des projets seront avec des équipes artistiques, mais aussi avec des profs, avec des éducateurs, etc. Et il y aura certains projets qui se feront directement par les jeunes eux-mêmes, sans qu'ils aient besoin de quelqu'un d'autre. Mmh. Il se passe un événement qui s'appelle le printemps de la jupe et du respect, qui est une chose formidable, où il y a plein de jeunes qui réalisent des bandes dessinées, des petits courts-métrages, dans le cadre de leurs cours ou à l'école, et ils font des choses formidables. Et en effet, ils n'ont pas forcément besoin de nous. Donc nous, on sera le relais de cela, le relais de diffusion, et on assurera des promotions qu'il n'y a pas forcément quand ils le font sur leur petit territoire, bien sûr.
Sur la plateforme égalité, il y a l'encyclopédie. Pour vous, en fait, c'est la différence entre l'encyclopédie que vous proposez sur la plateforme égalité et une encyclopédie papier. Pour vous, la différence, elle est...
La différence, elle est que il y a de moins en moins de gens qui utilisent l'encyclopédie, qui utilisent un dictionnaire papier aussi. On est nombreux à avoir un dictionnaire électronique. Il y a des choses formidables, vraiment d'extrême qualité qui se font. Et le papier, on ne l'utilise plus. Donc la différence, c'est aussi que l'encyclopédie papier, c'est pour le coup... le papier qui est déjà mort. C'est quelque chose qui n'existera plus que pour les bibliophiles et dans les bibliothèques, les centres de recherche. Mais c'est quelque chose qui n'a plus grand intérêt. Ce sont des volumes énormes qui prennent beaucoup de place, qui sont très lourds, alors qu'évidemment, sur votre mobile, sur votre tablette, sur votre ordinateur, vous avez accès à toutes les bibliothèques du monde en trois clics.
Il y a toujours quand même le côté donc ludique.
Tout à fait.
Et rapide.
C'est exactement cela. La différence entre notre encyclopédie numérique et une encyclopédie papier, c'est qu'il y a l'aspect ludique qui est très important et qu'on essaiera de développer de plus en plus parce que là aussi, ce qui serait formidable, c'est que des lycéens, des lycéennes viennent faire leur recherche documentaire pour des exposés sur cette encyclopédie plutôt que sur Wikipédia, même si Wikipédia, c'est très bien. Et puis, en effet, aussi tout l'aspect audiovisuel. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que article sur Halimi qui existe pour l'instant dans notre encyclopédie, par exemple, il y a évidemment nombre d'archives de l'INA, nombre de journaux télévisés de l'époque sur le procès de Bobigny, sur la vie de Halimi, voire on pourra peut-être négocier avec certains producteurs de pouvoir passer des documentaires qui auraient été faits sur Halimi. Et nous, nous allons par exemple, quand on en aura et les moyens et le temps, aller rencontrer Gisèle Halimi pour faire une grande interview d'elle. Et justement, pour en revenir aux jeunes, l'idée, c'est aussi que on n'enverra pas des journalistes seulement faire l'interview de Gisèle Halimi, mais des étudiants, par exemple. Et on fera une grande interview fleuve de 3 heures de Gisèle Halimi, qu'on postera par extrait ou en intégralité. Mais ce sont des étudiants qui auront fait cela, c'est-à-dire des gens, en plus, qui n'auront pas connu les combats qu'elle a menés. Donc, ce sera d'autant plus intéressant. Parce que là aussi, sur les jeunes, il y a des choses très importantes à leur dire. C'est leur rappeler que c'est en 65 que leur grand-mère, en l'occurrence, si on parle d'adolescents, a pu ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari et travailler sans que le mari puisse donner l'autorisation.
Justement, l'encyclopédie, il y a un fil historique et un fil géographique.
Tout à fait.
Alors, c'est avec la souris, on clique par exemple sur les continents pour la géographie, sur différents pays.
C'est très bien fait, hein. Oui. Je trouve que c'est très agréable. Voilà.
Et puis il y a un fil historique aussi où on apprend effectivement des choses, on apprend ou on réapprend. Ce qu'on savait déjà, c'est que la France, pays des Lumières, pourtant en retard sur le droit des femmes par rapport bien d'autres pays. Puisque par exemple, le droit de vote des femmes en Turquie était acquis en 1920.
Tout à fait.
La Turquie qui est un pays musulman. Certes laïque, mais un pays musulman quand même, où a priori les droits des femmes n'auraient pas été, assouplis par la vision des Lumières. Nous aurions pu en avoir au XVIIIe siècle, et puis même les philosophes des Lumières étaient extrêmement sexistes, de toute façon, on le sait. Donc on rappelle Olympe de Gouges, elle par contre, qui a essayé de faire bouger un peu le curseur. Tout ça, c'est dans le fil historique.
Et qui fut décapité.
Mais elle n'a pas été la seule non plus à l'époque, faut dire. Donc, on va dire que c'est intéressant parce qu'on peut remonter comme ça le fil de l'histoire.
C'est ce que vous avez appelé sur la plateforme, des flâneries.
Ça répond d'ailleurs à votre question. Encyclopédie numérique, c'est aussi l'idée du ludique, c'est aussi ça, c'est que la connaissance, c'est pas seulement quelque chose, c'est pas un poids comme non plus le combat pour l'égalité, c'est pas une contrainte. Au contraire, c'est joyeux, c'est rigolo, c'est agréable d'avoir. En plus, là, ce sont des informations courtes, donc c'est très agréable d'acquérir de la connaissance. Et c'est aussi ce que on veut faire, ce qu'on veut montrer avec cette encyclopédie.
J'ai vu aussi, avant, on va faire la petite pause musicale après, mais j'ai vu aussi, par contre, la plateforme associe beaucoup, notamment les luttes contre les discriminations LGBT, on dira, dans le sens large du terme, que ce soit homosexuel, lesbien ou du côté transgenre, je dirais.
Tout à fait.
Donc pour vous, c'est complètement associé?
Oui, oui, ça l'a été même historiquement. Dans les années 70, les femmes du MLF, les homosexuels du phare étaient très souvent associés dans nombre de combats. Pas toujours d'accord, mais très souvent associés. Voilà. Et on a retrouvé ça dans plusieurs périodes de l'histoire. Et on le retrouve d'ailleurs actuellement, et c'est tant mieux, parce que les discriminations, on est sur la même chose, les homosexuels, avec maintenant le mariage, avec le PACS auparavant, avec nombre de droits qui ont été reconnus. En effet, on a acquis nombre d'égalités, sauf que le résultat est là aussi le même que pour les femmes. Il subsiste des discriminations, alors qu'ils sont évidemment jamais dites ainsi, mais qui existent dans la réalité, bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
D'accord. Et on pourrait reparler ce dont nous parlions, dans l'avance, souvent parler de cette. Justement, on l'abordait en début d'émission. Il y a effectivement, au sein du mouvement associatif homosexuel militant, je dirais, parfois des scissions entre les femmes et les garçons, les femmes reprochant aux garçons de toujours et encore avoir une prise de parole, parce que ce sont les hommes, en fait.
Tout à fait.
Reproduire le même schéma, homme-femme. Mais Laurence n'est pas d'accord. Elle dit on n'a qu'à se remonter les manches aller au front nous-mêmes.
Oui.
Certaines le font. Il y a
mais
une
oui,
décision,
mais très bien.
Voilà. Donc, on va écouter, faire une petite pause musicale maintenant, ma petite Lolo.
Oui, bah du coup, c'est la pause musicale. Oui, je voulais juste avant la pause musicale, parce que c'est lié à ce que À ce que je veux dire et ce dont on vient de parler, il y a aussi un thème dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission qui est la convergence des luttes. Mmh. Et on s'aperçoit justement quand on fait les petites flâneries historiques ou géographiques sur la plateforme, on s'aperçoit que finalement le combat des femmes est lié au combat d'autres minorités. Et du coup, moi j'avais envie, j'ai pensé à une chanson de Pierre Perret qui s'appelle Lily.
Ah oui.
Que je trouve absolument sublime, qui est une chanson...
T'as décidé de nous faire pleurer.
Mais non, mais elle est tellement bien, cette chanson. C'est, voilà,
c'est sûr.
C'est une chanson qui parle, qui parle de féminisme, qui parle d'immigration, qui parle de racisme, et tout ça en même temps, donc je trouve que c'était bien trouvé.
Pierre Perret.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Et nous voilà de retour dans le studio de Pluriel Gay avec notre invité Guillaume Tanien. Alors, pour les personnes qui nous rejoindraient, donc on est en train de parler de la plateforme égalité, plateforme numérique. Et moi, là, une question que je voulais vous poser, parce que peut-être les éditeurs peuvent se poser cette question aussi. C'est une plateforme numérique féministe, donc, mais qui n'est pas affiliée à un tel ou tel courant féministe, parce qu'il faut savoir qu'il y a de nombreux courants féministes, de nombreuses écoles, on dira. Et vous n'êtes pas rattaché à telle ou telle école féministe.
Définitivement pas. On a coutume de dire qu'on est, on n'est pas militant, on est engagé. C'est-à-dire que il y a des journalistes qui sont à l'origine de ce projet, Anne-Caroline Jambot et moi-même, et on est très, pour nous, l'idée de l'indépendance est très importante. Donc, évidemment, tous les courants féministes sont bienvenus sur l'encyclopédie, sur le site d'actu, sur tout ce que nous faisons, mais il est hors de question que égalité appartienne à une quelconque tendance féministe ou autre chose, d'ailleurs. Mmh. C'est un projet complètement indépendant, très engagé, dont l'objectif c'est de faire bouger le progrès social, mais pas avec un discours univoque que pourrait tenir telle ou telle tendance.
D'accord. Alors, dans le cadre justement des programmes que vous souhaitez réaliser, vous réalisez déjà avec des intervenants extérieurs, est-ce que vous allez être obligé de sélectionner, je dirais, quelque part ? Par exemple, on va dire, je dis tout à fait par hasard, non pas par hasard du tout d'ailleurs, pas du tout par hasard, c'est tout à fait volontaire ce que je vais dire, un groupe de jeunes femmes musulmanes qui voudraient présenter une vidéo qui démontrerait que le voile peut être un choix accepté et acceptable par une femme. Est-ce que vous la diffuseriez ou pas, cette vidéo ?
En tant que journaliste, je vous réponds immédiatement oui, bien évidemment.
D'accord.
L'enjeu, si les gens ne sont pas d'accord, c'est qu'il puisse y avoir du débat. Mmh. C'est que d'autres gens puissent dire « je ne suis pas d'accord avec cette idée », mais que des gens, hormis les gens racistes, homophobes, sexistes, et j'en passe et des meilleurs, hormis ceux-là, n'auront pas le droit à la parole, parce que d'abord la loi l'interdit, donc de toute façon c'est réglé, et puis parce que au regard de ce que nous faisons, c'est-à-dire nous battre pour l'égalité, il est hors de question que des gens discriminateurs puissent s'exprimer de façon dégoûtante.
D'accord.
Donc ça sera la limite. Mais hormis cela, et l'appel au crime, l'apologie, etc., du crime, toutes ces choses-là. Mais hormis cela, tous les débats sont ouverts. Et d'ailleurs, il existe des musulmanes féministes qui portent le voile. Au Maroc, il y a des associations très intéressantes féministes, et la leader porte un foulard.
Oui, elle porte, c'est pas une burqa niqab, intégrale.
Elle porte un foulard, tout à fait. Et ça n'est pas forcément incompatible. Moi, par exemple, vous voyez, par rapport à la question des courants féministes, il y a des courants féministes qui sont définitivement très agressifs sur cette question du voile, très agressifs, pardon, sur cette question du voile. Pour ma part, je n'ai pas de point de vue définitif.
D'accord.
Cela me gêne qu'on considère que la chevelure, le visage d'une femme soit une offense ou soit forcément quelque chose qui provoque le désir, voire un désir frénétique. Je trouve ça assez gênant, parce que c'est ramener la femme à être juste un objet de désir, de cul, de sexe, et pas autre chose. Et l'homme, idem d'ailleurs, parce que tous ces barbus qui puent, qui disent que la femme est une offense et provoque le désir des hommes, sont quand même des gens un peu dérangés de la zézette, il faut le dire. Et donc, c'est un peu inquiétant. Mais après, on voit nombre de jeunes filles qui portent des foulards, et qui, en effet, ne se laissent pas faire sur leur liberté. Donc, tout ça est compatible. Sur la prostitution, voilà. Par exemple...
Alors, j'allais dire, justement, s'il y a deux, on vous propose deux projets audiovisuels, par exemple, qui pourraient s'intégrer à la plateforme Yadaliké. Un qui serait contre la pénalisation des clients, qui serait pour l'abolition de la prostitution, deux écoles différentes. Est-ce que vous seriez à même de mettre les deux projets sur la même plateforme égalité, sur cette plateforme égalité ? Puisque là, c'est vraiment un des points d'achoppement se battre littéralement les associations féministes sur la théorie. L'abolitionnisme, etc.
Mais on ferait parler déjà les premières intéressées, c'est-à-dire les prostituées.
Voilà, celles qu'on entend.
Et c'est vrai que très souvent, à ces féministes politiques, on peut leur reprocher une chose, c'est toujours parler pour les autres. Et moi, je ferais parler, en effet, on parlait du voile, je laisserais avant tout parler les jeunes filles voilées pour qu'elles disent aussi les choses. Et quant à la prostitution, ce sont d'abord les prostituées qu'on interviewerait ou qu'on laisserait parler. Et puis ensuite, tous les autres, ceux qui pensent qu'il faut abolir, qu'il faut pénaliser, etc., etc., on laisserait l'essentiel, et que le débat existe, l'essentiel est que les gens puissent exprimer leur point de vue, confronter leur point de vue. C'est ça aussi la société démocratique, et se battre pour l'égalité, c'est qu'aussi tout le monde puisse confronter son point de vue.
Donc du coup, ce que vous disiez, donc l'essentiel, de ne pas choisir entre un féminisme, un combat féministe ou un autre... C'est vraiment l'essentiel, c'est que les internautes aient vraiment la main mise, on va dire, sur votre site.
Et toutes les informations possibles pour comprendre les choses, ça c'est l'essentiel. Ce qui est intéressant, c'est que la pensée est complexe, le monde est complexe, la pensée est complexe, donc plus on a d'informations, plus on peut penser bien. Et penser bien, bah, ça veut dire que certainement on finira par penser que l'égalité, c'est quand même mieux que l'inégalité, que le progrès, c'est quand même mieux que la réaction, etc., etc. Moi, j'ai dirigé un journal qui s'appelait Tabloïd, qui était un journal gay et lesbien sur tout le sud-est de la France. Et c'était c'est très ancien, c'était au moment du Pax. Et donc, vous vous souvenez de Christine Boutin, qui était une des furies contre cette loi. Je suis allé l'interviewer. Et ça a été un moment formidable, parce qu'elle a accepté une interview d'un journal gay, donc c'était pas mal. Et j'ai trouvé que cette femme, qui était une ennemie, évidemment, puisqu'elle tenait des propos sur le Pax, qui étaient pas sympas pour les homosexuels qui désiraient vivre ensemble, eh bien, j'ai trouvé qu'au moins, elle était respectable parce qu'elle avait une opinion, elle allait jusqu'au bout de son opinion, et donc, il n'y avait aucune raison pour moi qu'on ne la laisse pas parler. D'autant plus que cette interview, qui a été reprise par tous les médias nationaux, voire internationaux, dans cette interview, on avait titré « J'aime le sexe », qui était une citation de Christine Boutin pendant cette interview. Et le personnage était un peu, en effet...
Vous ne dites pas que vous allez mettre dans la Panthéon, quand même, Christine Boutin.
Ah oui.
Pas forcément, pas parce que je ne pense pas que ce soit une femme exceptionnelle sur les droits des femmes. Mais c'est en tout cas quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, par exemple. Ouais. Qui est une ennemie, mais respectable.
Malgré quand même les dérives.
Mais tout à fait.
Je pensais la même chose jusqu'à un certain point.
Elle n'a jamais été...
Puis il y a eu le mariage pour tous, et là, je trouve
Elle
n'a
jamais été dans des dérives insultantes. En tout cas, je n'ai pas vu de dérives insultantes. Comme pourrait l'être Zemmour, par exemple, qui est un imbécile. Il est bête, il n'a aucune intelligence. C'est une escroquerie intellectuelle. Et en plus, c'est un homme très méchant. Quant aux homosexuels, quant aux femmes, quant aux étrangers, etc. Christine Boutin, j'ai pas l'impression, pour la connaître assez bien, j'ai pas l'impression qu'elle soit méchante. Elle est plus contente de faire du buzz et un peu de provocation pour faire parler d'elle, parce que sinon on parlerait pas d'elle, ça intéresse quand même pas grand monde, Christine Boutin, plus que méchante.
Mais du coup, alors, je voulais parler de la Panthéon. Alors imaginons, donc là ce sont, dans le cas de la Panthéon, donc qui est le deuxième site que vous gérez avec la plateforme Égalité. Donc imaginons quelqu'un qui voudrait poster, faire l'éloge, enfin un article, une notice, des vidéos sur Christine Boutin.
Vous allez voir que vos éditeurs et auditrices taquins demain vont poster Christine Boutin.
Non mais il y a des modérateurs quand même, même s'il est...
Bien sûr.
Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe?
On n'interdira pas qu'il y ait Christine Boutin. En revanche, l'avantage d'un site participatif, c'est que tout un chacun, toute une chacune peut poster des noms, peut poster des articles sur les personnes, donc sur Christine Boutin, mais tout un chacun et toute une chacune peut aussi faire des commentaires et dire « il est impensable que cette femme entre dans le Panthéon pour telle et telle raison ». Vous alliez citer des moments où elle a dit des choses affreuses, elle en a sûrement dit sur l'égalité femmes-hommes. Eh bien, en effet, le débat aura lieu et il peut y avoir des dizaines de commentaires. Et évidemment, si... tous les commentaires et si tout le monde proteste sur Christine Boutin, on retirera Christine Boutin. Même si, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait justement Christine Boutin dans la mesure où l'essentiel est qu'il y ait sur tous les autres.
Christine, si tu nous écoutes, nous t'embrassons.
Mais justement, ce que je trouve intéressant avec la Panthéon, c'est que c'est moins figé que l'idée du Panthéon.
Tout à fait.
Parce qu'il y a trois parties, en fait, sur le site, trois grandes périodes. Et donc, il y a forcément une période donc, qui nous concerne maintenant, avec ce que vous disiez tout à l'heure, des femmes qui sont encore vivantes. Absolument. Pas seulement des mortes, quoi. Et du coup, je trouve que ça donne un côté intéressant. C'est pas juste rendre hommage à celles qui ont combattu et qui sont plus là aujourd'hui. C'est aussi se rendre compte... au moment présent, à l'époque à laquelle on vit, que le combat continue encore. Et il y a quand même... Alors, il y a des petites surprises. Donc, Christine Boutin, c'était un exemple un peu extrême, hein, je trouve.
Nous verrons demain. Je donne rendez-vous à tous les auditeurs et auditrices demain sur lapanthéon.fr.
Mais du coup, moi, sur le site de la Panthéon, il y a quelque chose qui m'a fait sourire et que je trouve intéressant. Il y a des bonnes surprises. Il y a Beyoncé, par exemple, sur le site.
Oui, mais
oui, non, non, mais
oui, je vois ce que tu veux dire. Beyoncé, c'est une star, du showbiz.
Voilà.
C'est pas une scientifique, c'est pas une journaliste, c'est pas une intellectuelle, on dirait.
Voilà. C'est une artiste.
C'est une artiste.
Bien sûr.
Et donc,
Qui est un modèle aux États-Unis, paraît-il.
Et qui a tenu des propos féministes, et qui, en tant que femme, comme Madonna, comme Billie Holiday, ou comme d'autres femmes peintres, dont il y avait un très beau documentaire sur Arte dernièrement, sur plein de femmes peintres qu'on ignorait, qui ont été camouflées par tous ces hommes artistes, y compris chez les impressionnistes, y compris à la Renaissance. Et il y en a d'ailleurs une, la peintre de... Là, je ne me souviendrai pas de son nom, parce que je l'ai découvert avec la Panthéon. C'était une femme peintre à l'époque de Caravage. C'est absolument sublime ce qu'elle fait. Ses peintures sont sublimes. Et elle est mise en valeur dans la Panthéon. Donc Beyoncé, évidemment, pourquoi pas, parce que c'est une femme qui, en tant qu'artiste, a fait bouger le monde.
Mais du coup, il y a une notice, donc la personne donc, qui a posté l'article sur Beyoncé a mis les faits et les armes de Beyoncé. Donc. Et du coup, c'est vrai que ça peut donner une autre image d'une personne qu'on peut considérer uniquement comme une chanteuse afro-américaine qui est un peu pote avec Obama, enfin un peu beaucoup, ouais, avec le couple Obama, et qui fait juste des shows où elle agite un peu les cheveux comme c'est ça. Non mais tu l'as fait. Non mais c'est vrai. Ouais. Mais du coup, alors je vais me permettre juste de dire en fait pourquoi la personne donc a voulu absolument poster Beyoncé sur la Panthéon. Elle est cofondatrice de l'association Chime for Change, qui finance des projets en Afghanistan, en Espagne, en Inde, en Ouganda, visant à améliorer et promouvoir la santé, l'éducation et les droits des femmes. Elle a ouvert une école de cosmétologie, ça c'est très intéressant, dans un centre de réhabilitation à Brooklyn afin d'aider des femmes qui sortent de la drogue, donc pour se reconstruire, et apparemment elle donne 100 000 dollars par an à cette association. Elle s'est engagée pour la santé des jeunes aux côtés de Michelle Obama, donc qui a lancé un vaste programme pour lutter contre l'obésité juvénile aux États-Unis. Elle dirige Parkwood Entertainment, qui est sa propre entreprise de production artistique. Et elle ne veille à engager que des femmes sur ses tournées, qu'elles soient musiciennes, techniciennes. Voilà, donc il y a vraiment un côté... C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ignorais complètement sur Beyoncé. Et du coup... la Panthéon, ça a des côtés comme ça, de redécouvrir des personnes.
La personne qui a posté sur Beyoncé a très bien fait de le faire, voilà, puisqu'on apprend des choses, et c'est ça l'enjeu.
On peut redécouvrir ou apprendre des choses sur, par exemple, des personnages phares comme Simone de Beauvoir ou Gisèle Halimi plus récemment, mais on peut aussi...
Qui coulent de source, je dirais.
Voilà, qui coulent de source, mais avoir des petites surprises comme ça avec des personnes comme Beyoncé.
Mais il y a plein de scientifiques aussi qui commencent à être postés, une mathématicienne, j'ai vu d'autres choses dernièrement, Et j'espère qu'il y aura, par exemple, toutes ces femmes qui ont inventé plein de choses de notre quotidien. Et contrairement à ce que des machos pourraient penser, elles n'ont pas simplement inventé le lave-vaisselle et le lave-linge. Elles ont aussi inventé des choses très techniques qui n'ont rien à voir avec la féminitude, avec la féminité. Il y a plein de femmes qui ont inventé des choses qui ont bouleversé et amélioré notre quotidien. Et ça, j'espère que des gens vont en effet poster des articles sur toutes ces femmes, parce que c'est aussi très important de rappeler ça dans l'égalité, que les inventrices, les scientifiques sont aussi très nombreuses, comme les artistes, comme les politiques, comme Beyoncé.
Ce qui nous rappelle, encore une fois, que la plateforme égalité, c'est un site participatif.
Tout à fait.
D'accord.
En tout cas, la Panthéon.
La Panthéon.
La Panthéon, particulièrement.
Tout à fait.
D'accord.
La Panthéon.fr.
Du coup,
ma petite Lolo.
Une petite pause musicale.
D'accord.
Pour se faire plaisir.
Voilà.
Et donc du Beyoncé. Logique.
Comme par hasard.
Simple. Single ladies.
for permission. Did I mention? Don't pay him any attention. Cause you had your turn, turn. Now you're gonna learn what it really feels like to miss me. Cause if you like it, then you should have put a ring on it. If you like it, then you should have put a ring on it. Don't be mad what you see, that he wanted. If you like it, then you should have put a ring on it. If you don't, you'll be alone. And like a ghost, I'll be gone. All the single ladies.
Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Et nous sommes de retour donc pour la fin de cette émission. Il nous reste peu de temps, donc nous sommes toujours avec Guillaume Tania de la plateforme Égalité. Alors, je voulais, avant de revenir donc à la plateforme Égalité, je voulais annoncer un événement qui va avoir lieu vendredi. On en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mercredi dernier. Il s'agit donc d'une marche. Une marche nocturne qui est organisée par un mouvement, je dirais, informel un petit peu, qui se crée juste pour cet événement. C'est la troisième fois qu'il va avoir lieu, mais dont les personnes organisatrices viennent en partie du planning familial et en partie aussi du collectif lesbien lyonnais, qu'on connaît bien ici, puisqu'elles sont déjà venues et que nous les aimons.
Oui.
Et elles ont organisé donc...
Nous les embrassons.
Nous les embrassons très fort. Elles ont organisé pour la troisième fois, la troisième année consécutive, une marche nocturne dans les rues de Lyon. C'est au départ de la place de la Croix-Rousse à Lyon. Ça a lieu vendredi 10 avril à 20h. Et je tiens à dire donc, il s'agit bien d'une marche féministe non mixte. Donc, on se rappellera que les garçons cisgenres ne sont pas conviés. Alors justement, Guillaume, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette initiative où on se retrouve face à un mouvement où peuvent... peuvent participer tout plein de personnes, sauf une catégorie bien définie. Qu'est-ce que vous en pensez, cette non-mixité?
J'entends et je comprends la revendication, le sens politique.
Ça, c'est un niveau personnel, quand je vous interroge.
S'entend. Donc, j'entends la revendication et le sens politique, mais pour faire simple, parce que, après tout, elles le font ainsi, si elles l'entendent, moi, je préfère le mélange, la partouze, plutôt que, plutôt que les choses où les gens se mélangent pas.
La partouze intellectuelle, dirons-nous.
Non.
Pas seulement.
Allons-y, vive le plaisir. Donc, j'entends, je trouve ça bien que les femmes se réapproprient la nuit, la ville.
Voilà, c'est dans ce but-là, en fait. Hein.
Mais est-ce que c'est forcément que les femmes... Il y a eu des manifestations, d'ailleurs, dans les années 70 ou 80, nocturnes de femmes aussi. Je ne sais pas si elles étaient mixtes ou pas pour le coup. Est-ce que ça n'aurait pas aussi beaucoup de force si des hommes venaient, non pas devant, mais derrière, et non pas pour les protéger, mais pour dire aussi avec elles que c'est important que la ville appartienne de jour et de nuit.
Il faut se rappeler aussi dans quel contexte c'est réalisé, la nuit, pourquoi? Parce que c'est un domaine, la nuit nocturne, qui est comme une période où les femmes se sentent encore plus en danger, dans un contexte urbain, dans la ville, où déjà la ville par nature n'est pas faite, disent-elles, pour les les femmes, mais pour les hommes. Et en plus, la nuit se rajoute. On sait qu'une femme seule, la nuit, aura peur, plus peut-être qu'un homme, etc., d'être
abordée. En même temps, quand vous croisez 5 malabars en face de vous, qui sont agressifs, vous ne serez pas non plus rassuré.
Aussi.
Disons que le problème, c'est qu'une femme seule, un homme seul, qui croise un homme seul, même s'il est plus musclé que lui en face... normalement, il a moins peur. Une femme seule qui croise un homme seul en face, il y aura toujours une petite appréhension.
Bien sûr.
Voilà, il y a aussi le contexte où, par exemple, des femmes sortent entre elles. Elles sont en groupe, elles n'auront pas le même. Il y aura peut-être pas le même jugement sur elles. Un groupe de femmes qui sort, qui s'amuserait au restaurant, qui irait au bar boire des canons pour s'amuser entre filles. Il n'y aurait peut-être pas le
elles
même...
Elles sont plus facilement suspectes.
Suspectes, voilà, de mauvaises mœurs. De...
Tout de suite.
Ah, celles-là, c'est des femmes
on
faciles.
On nous prête des intentions, toujours.
Mais pas toi, Laurence,
qui sont...
jamais.
Qui sont peut-être les nôtres, mais... pas toujours.
En revanche, d'ailleurs, je voulais... très, très rapidement, il existe des femmes antiféministes, on est d'accord?
Oui, oui, oui. Oui, bien sûr, il existe certainement des gens qui seraient victimes de racisme, qui sont racistes. Il existe des juifs au Front National, ou des arabes, ou des noirs, bien sûr. Tout est possible, c'est aussi cela qui est merveilleux, la vie est merveilleuse, tout est possible.
Sinon, être un garçon au milieu d'un cercle féministe, je dirais, d'un projet axé sur le féminisme, le sexisme, qu'est-ce que ça fait alors?
Rien féministe. De plus, c'est fort.
De toute façon, vous êtes convaincu, vous êtes féministe.
Oui, oui.
Ça rajoute quelque chose, justement. Vous pensez ajouter quelque chose
Ça, elles le diront. Ouais. Un plus ou un moins, elles le diront. Je n'en sais rien. Mais c'est, en tout cas, ma foi est certaine, mon combat est certain. Après, le reste, je n'en sais rien. Mais non, moi, j'ai toujours travaillé avec des femmes dans ma vie, dans les journaux, et la question ne s'est jamais posée pour moi. Est-ce que c'est normal que ma supérieure soit une femme? Donc, pour moi, pour ma part, il n'y a rien d'extraordinaire. Et ça devrait être, je pense, ainsi tout le temps. Les hommes devraient trouver, et les hommes, nombreux d'hommes trouvent d'ailleurs, que c'est tout à fait légitime qu'une femme soit au-dessus d'eux, qu'elle...
Après, ça va dépendre peut-être aussi des milieux professionnels, je pense.
Oui. Hein.
Mais dans plein de milieux, c'est maintenant quelque chose d'acquis. Là aussi, justement, par rapport à nombre de féministes politiques, nous, on est très optimistes. Alors, on n'est pas béat d'optimisme. Pour preuve, il reste encore beaucoup de combats à mener. Mais en tout cas, on est très optimistes. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des chiffres qui sont donnés, par exemple, sur le partage des tâches ménagères. Mais il y a une sociologue, une folle extraordinaire. Et là aussi, j'oublie son nom. J'aurais dû le noter, qui a fait un livre où elle a étudié justement des couples, nombre de couples, et elle dit que ça a beaucoup changé. Mais on le voit dans le métro, le nombre de pères qui sont avec les poussettes et qui radotent autant qu'une mère en faisant à l'enfant, on en voit de plus en plus, et de tous les milieux. Et ça, justement, nous, ce dont on a envie aussi avec égalité, c'est en effet de dire toutes les choses qui ne vont pas, et elles sont nombreuses sur l'égalité femmes-hommes en particulier, mais aussi de montrer tout ce qui va très bien et tout ce qui évolue favorablement.
Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus d'hommes qui achètent leurs fringues eux-mêmes et qui se promènent avec des petits sacs de courses, de vêtements, tu sais, trucs comme ça. J'en ai vu beaucoup dernièrement, mais... Pardon, j'étais dans le marais. Voilà, donc du coup...
C'est pas possible.
Donc du coup, on va rappeler
oui.
Tous les renseignements concernant l'égalité. Alors juste avant ça, encore une dernière information. Donc je rappelle la marche non mixte donc des femmes. L'an dernier, il y avait eu 200 femmes quand même qui avaient défilé dans les rues de Lyon. C'est donc le départ Place de la Croix-Rousse à Lyon, 4e vendredi 10, donc c'est ce vendredi à 20h. Je voulais dire aussi, mais j'en reparlerai un peu plus la semaine prochaine, tu sais que nous travaillons de plus en plus en étroite collaboration avec nos confrères de Homo Micro à Paris, de Radio France, alors, j'ai toujours du mal à dire le nom de leur radio, Fréquence France Pluriel, je vais y arriver. Alors, le 20 avril, ils vont avoir une émission entièrement consacrée à la PMA, dans laquelle n'interviendront que des femmes.
Très bien.
Voilà. J'en reparlerai la semaine prochaine, ça c'est le 20 avril, donc on aura le temps de revenir dessus. Je voulais dire aussi que jusqu'au 17 avril, on peut encore faire des dons aussi d'Action. Mmh. Donc au numéro 110, c'est jusqu'au 17 avril, je vais y arriver en essayant de ne pas trop bégayer. Sur leur site internet aussi, donc le numéro c'est 110, sinon le site internet c'est sidaction.org. Et on peut aussi envoyer des dons par courrier traditionnellement, comme à l'ancienne. Sidaction, 228 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, 75010 Paris. Et donc maintenant, on va parler un petit peu donc de comment contacter Égalité, comment faire. Alors déjà, le nom, le site, comment on y accède à ce site ?
Qu'est-ce qu'on tape sur notre... EGALITEES.fr. Égalité.fr, donc avec deux E et un S.
D'accord. Et donc, c'est la plateforme qui après
tout à fait. À partir de cette plateforme, on va vers l'encyclopédie, vers les flâneries dont vous parliez, voilà. Vers nos réseaux sociaux qui sont aussi présents sur la plateforme, vers la Panthéon et vers les autres sites qui vont ouvrir bientôt. Voilà.
Donc, Égalité, on répète.
Et vers d'autres sites qu'on va ouvrir d'ailleurs, d'autres projets qu'on mènera avec les jeunes, par exemple.
Donc, Égalité, EGALITEES.fr.
FR.
Voilà. Et on peut aussi voir un film, un reportage que nous avons fait sur une sensibilisation, parce qu'on ne fait pas que de l'Internet, on est aussi dans le réel. On a sensibilisé à la demande de la région Rhône-Alpes en octobre dernier sur une péniche, 950 lycéens et lycéennes sur à l'égalité. Et donc, Éléonore, justement, qui n'est pas venue ce soir, a réalisé un reportage sur cette opération que nous avons menée, qui est visible sur la plateforme, justement, égalité.fr.
Parfait. L'heure tourne, nous allons devoir nous quitter,
et oui.
Mouchoir en main, et nous avons beaucoup pleuré, comme d'habitude, à chaque fois que nous nous séparons. Donc, je voulais juste dire que le site internet de l'émission pour l'égalité est en construction, work in progress, donc pour l'instant, work in process.
Mais il est déjà très bien.
Oui, mais bon, il n'est pas encore complet.
Oui.
Hein? Donc, dans les semaines à venir, il va être complété. Sinon, le podcast de l'émission, toujours et tout cas, écoutable sur l'audioblog, la plateforme audio blog de Arte Radio. Et puis sur la page Facebook, je rajouterai tous les éléments
toutes
dont
les
nous
infos.
Avons parlé, toutes les infos concernant Égalité ES. Merci Guillaume d'être venu nous voir.
Merci à vous, j'ai passé un fort agréable moment.
Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter que vous n'auriez pas dit ? Vous avez une minute, c'est jamais. Une annonce à faire,
Par pitié, chers auditeurs et éditrices, ne nous faites pas un post sur Christine Boutin demain soir.
D'accord. Merci Malolo d'être venu.
Écoute, merci à toi de m'accueillir à chaque fois.
Mais je ne
t'accueille
pas,
donc
nous sommes un couple désormais.
Donc, oui, exactement.
Nous pouvons le dire d'ailleurs, maintenant ça y est, officialisé notre
union.
Voilà,
c'est fait.
Et puis Bernardo, c'est notre enfant.
C'est ça.
Voilà. Pourquoi ? Quelque chose.
On l'a adopté.
On l'a adopté, voilà.
On a adopté
un enfant
Bernard.
Adoptif, voilà, parce qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. Voilà. Alors du coup, on en a adopté un. Et du coup, voilà. Merci Guillaume, en tout cas.
Merci.
J'avais prévu une troisième pause musicale pour finir.
Oui, Gossip.
Ah oui,
d'accord. À fond.
Ah oui, on est à fond, justement, dans le sujet.
Combat féministe,
j'ai
homo,
cru que t'allais nous mettre,
LGBT.
Comment ça s'appelle
Eh ben non, Gossip.
Pluriel gay.
Sting the way of control.
Pluriel gay.